France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit un artiste pour qui créer n'a jamais été un geste anodin ni décoratif. Un artiste qui a toujours pensé que l'art devait servir à quelque chose. Abdelmalik est rappeur, poète, écrivain, homme de scène, cinéaste. Mais surtout, Abdelmalik est un passeur, quelqu'un qui depuis plus de 25 ans relie les mondes. La rue et l'université, le rap et la littérature, la colère et la sagesse, la mémoire et le présent. Il sort en ce moment au cinéma Sursis né libre, un film inspiré d'une histoire vraie, celle d'un homme né esclave qui a mené pendant 30 ans un combat judiciaire pour être reconnu libre par la France. Un film, bien sûr, sur l'esclavage, mais surtout un film aussi sur son pays, sur l'éducation, sur la dignité et sur cette question brûlante, qu'est-ce que ça veut dire être libre aujourd'hui. Ce film s'accompagne aussi d'un album collectif, Sursis Héritage, où se croisent plusieurs générations de rappeurs et de rappeuses, parce que chez Abdelmalik, le cinéma, la musique et la pensée ne sont jamais séparés. Alors ce soir, on va pas uniquement parler d'un film, on va parler d'un parcours, d'un rapport à la France, à l'histoire, à la transmission de rap et de poésie. Abdelmalik est notre invité à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Silence ! Fursi devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années.
Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier.
Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble.
Tout est organisé pour maintenir ce système en place.
Ils seront prêts à te pardonner si tu acceptes de retravailler pour eux.
Mais pardonner ? Après toutes ces années de souffrance, c'est injustice.
Quand on a été esclave, on l'est toute sa vie.
Peut-on renoncer à sa liberté ? Peut-on abandonner cet attribut fondamental de l'être humain ?
Bonsoir Abdelmalik.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ça va bien et toi Mehdi ?
Très très bien, très heureux de t'avoir pour ce projet. Parce qu'en fait, effectivement, on parle d'un film, on parle de musique. À quel moment t'as compris ou t'as voulu que ce projet soit, n'ait pas qu'une seule casquette en fait, qu'il soit un peu multiple et que ce soit aussi bien un film qu'un album ? À quel moment t'as construit un peu cette espèce de projet à multiples casquettes ?
Mais en fait, la démarche, c'est que dès le départ, le film est inspiré d'un livre, le
absolument.
Livre de Mohamed Aissaoui,
que j'ai là,
ouais, L'affaire de l'esclave Fursi. Donc déjà, c'était en dialogue. Mon travail sur le film, le livre de Mohamed, et Mohamed lui-même, puisqu'il a travaillé avec moi sur l'écriture, ouais. etc., en plus de...
Oui,
tu l'as
impliqué, ouais, exactement. Ouais.
Et quand le film était fait, j'étais en montage, en train de peaufiner, d'arranger des choses. Je faisais venir des amis. Il y a Oxmo qui est venu, il y a Lino qui est venu, il y a Lajli qui est venu, il y a Benjamin Epps. J'ai fait venir quelques gens comme ça pour voir le film et me donner leur avis et tout ça, et voir s'il y avait des choses qui devaient bouger et tout. Et ce faisant, avec Matteo Falcon
qui t'accompagne depuis...
Ouais, qui est mon complice.
Exactement.
Et on a eu l'idée, on s'est dit, ça serait bien si, au lieu de faire juste une BO, on crée un groupe et on invite des gens. Et moi, j'ai pensé que l'idée était bonne. Et je me suis dit, ça va être le moyen aussi, sur les thématiques qu'on aborde dans le film, de les faire aborder par les rappeurs, qui sont finalement celles et ceux qui, j'ai envie de dire, sont les poétesses, les poètes d'aujourd'hui, qui précisément... ont un combat principal, finalement celui de la liberté, et celui aussi de lutter contre toutes les formes d'injustice. Et donc c'est intrinsèquement presque lié au fait d'être rappeur. Donc pour moi, ça faisait sens qu'ils voient le film et qu'ils écrivent à ce sujet-là. Et donc on a fait ça. Et puis aussi, moi je suis, je suis pas juste un rappeur, je suis un MC, on peut même dire je suis un b-boy. C'est-à-dire il y a quand même cette idée de comment on avance ensemble, on crew, on posse. Moi il y a un truc qui me manquait un peu, les posse cuts, tu vois, il y a plus
bien
ça.
Et posse cuts, c'est des morceaux à plusieurs, qui est une tradition dans le rap,
qui se fait beaucoup moins. Et j'avais envie d'être dans cette dynamique là. Voilà.
On va parler évidemment après de la musique et on va écouter même des extraits bien sûr de ce projet. Mais si on revient sur le film, évidemment. Le film parle de plusieurs choses, mais c'est aussi évidemment, en tout cas ça peut être présenté comme un film sur l'esclavage qui fait partie de l'histoire de France. Et des films sur l'esclavage, il y en a eu beaucoup aux États-Unis, en tout cas c'est quelque chose qui a été traité par des cinéastes. En France, il y en a eu, mais très peu, même si ça fait partie de l'histoire de ce pays. Comment tu expliques toi que finalement ce film est presque un ovni en tout cas, c'est pas un sujet qui a été vraiment, une matière qui a été extrêmement traitée ouais. par le cinéma hexagonal?
Ouais, et puis il y a eu l'année dernière, il y a deux ans maintenant, le Ni chaîne ni maître de Simon Montailleron.
Absolument.
mais c'est quasiment tout. Enfin, il y a eu des choses à la télé aussi, et puis, voilà. Puis des choses il y a très très longtemps. Mais ce vide-là, en fait, il explique aussi, il nous dit quelque chose sur notre pays. Il dit quelque chose sur notre, comment on regarde le passé traumatique de notre pays.
Ouais.
Et l'esclavage, c'est une période absolument obscure et ténébreuse de notre histoire collective. Et précisément parce que c'est une histoire obscure et ténébreuse de notre histoire collective qu'il est essentiel et vital d'en parler. Parce que précisément, encore une fois, il y a plein de problématiques qu'on vit aujourd'hui qui sont les conséquences directes de l'esclavagisme, du colonialisme, etc. Et donc, il faut venir d'une certaine manière à la racine du problème si on a véritablement envie de déposer nos sacs de douleur et de faire France véritablement. Et je pense que c'est lié à ça. D'une certaine manière, la culture, la musique, le cinéma, les livres, et le cinéma en particulier, pour moi, c'est fondamental parce que ça travaille directement les imaginaires. Et tout d'un coup, des concepts sont incarnés. Et tout d'un coup, on voit les choses en vrai. Donc, si on a envie vraiment de réaliser ce qui s'est passé, ce qu'on a traversé, si on a vraiment envie de changer les choses, c'est important de les raconter. Donc, de mon point de vue, c'est peut-être OVNI, mais j'ai le sentiment plutôt que c'est le début de quelque chose. J'ouvre une porte et j'espère absolument que plein d'autrices, d'auteurs, de réalisatrices, de réalisateurs vont se faufiler et vont s'en emparer et aller à fond. C'est vraiment, c'est un premier pas, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Mais ne dit-on pas que les plus grands voyages commencent par le premier pas.
Et est-ce que c'est compliqué à mettre en place un film comme ça?
Tu sais, c'est marrant. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé.
Parce qu'on a l'impression que c'est. Moi, j'imagine que c'est compliqué. J'imagine que les portes sont peut-être fermées ou que ça fait peur un film comme ça. Qu'on se dit que c'est dur à financer. On se dit que ça va pas forcément être rentable. Enfin, j'imagine que ça doit faire peur au studio. Peut-être que je me trompe.
Mais d'abord, pour préciser quelque chose, n'importe quel film qu'on monte aujourd'hui, c'est compliqué. C'est vraiment, pour qu'un film se passe, il faut un alignement des étoiles. Entre le moment où t'as l'idée est écrite et qui sort, il faut un alignement des étoiles. Et ça concerne tous les films. Même les comédies où t'as l'impression que ça doit être
monté,
il y en a plein dans l'année. En fait, c'est difficile. Donc ça, déjà, c'est la première chose. Et au-delà de ça, et j'en parlais notamment avec Passy, parce que Passy me posait cette question aussi. Ouais.
Passy qui est sur on en reparlera, mais t'as quand même reformé le ministère amer, pour une partie du ministère amer en tout cas.
Oui, mais quand même.
Quelle
honneur ils m'ont fait. Bref. Donc j'en parlais et tout, et je lui disais, et j'en parlais pareil aussi avec Chill, avec Akhenaton, et je leur disais en fait, quand tu fais un film, tu vas avoir différents guichets pour te financer. Mais si j'avais fait le film il y a 30 ans, peut-être ça aurait été plus compliqué, parce que les gens dans ces guichets-là, peut-être, je sais pas, c'était des nostalgiques de l'Algérie française, ou des amoureux de l'époque bénie des colonies, ou je sais pas, et tu viens avec un projet comme ça. Sauf que les gens que j'allais voir, c'est la génération, c'est l'histoire qui veut ça, c'est des gens qui ont écouté Minister Hammer, qui ont été bercés par Stormy Passy, qui ont écouté IAM, qui sont allés au concert d'IAM, qui ont kiffé IAM, qui ont kiffé Solar, qui ont kiffé NTM. Et puis c'est pas n'importe qui vient les voir, c'est Abdelmalik quand même. Et si tu veux, là, quand tu mets tout ça en lien, ils comprennent. Quand t'arrives avec un sujet comme ça, c'est pas OVNI. Mmh. Eux, ils le comprennent parce que c'est dans une dynamique qui fait partie de leur propre culture, finalement, de la culture française.
Ouais.
Et en ce sens-là, quelle chance on a d'avoir eu et d'avoir encore ces légendes et ces artistes qui continuent, parce que encore une fois, ils façonnent l'imaginaire et ils permettent qu'il y ait d'autres formes artistiques qui puissent se développer. S'il y avait pas IAM, t'as pas Abdelmalik. Si t'as pas le ministère Hammer, t'as pas Abdelmalik. Et ça, c'est fondamental de le dire. Et peut-être que d'autres plus jeunes diront, ben, Abdelmalik, il a apporté l'idée de transmission, elle est fondamentale. Pas juste parce qu'il faut transmettre, parce qu'elle transforme la société. Et en ce sens-là, ça n'a pas été plus difficile qu'un autre film que de monter ce projet aujourd'hui. Ce qui est dur, c'est le travail artistique. Comment l'amener véritablement au niveau où j'ai envie de l'amener en termes artistiques. Et puis tout le reste, tu vois, c'est surtout c'est ça. Donc du moment où je m'installe pour écrire et du moment où je donne le clap de fin de tournage, il y a quand même 5 ans qui se sont passés. Donc 5 ans, c'est quelque chose. C'est 5 ans de ma vie. C'est important. Voilà.
C'est intéressant parce que tu sais quand on t'entend parler, évidemment. Finalement, t'es un optimiste parce que tu sais, on est quand même dans parfois un monde un peu désenchanté aujourd'hui. On a aussi quelque chose qui est souvent dit, c'est que finalement, bon, les artistes, ils vont pas changer le monde. Un album, ça va pas changer la face du monde. Un film, ça va pas changer la face du monde. Toi, t'es convaincu du contraire en fait.
Mais totalement.
Ouais.
Mais IAM ont changé la face du monde. Ministère Hammer, Stormy et Passy, ils ont changé la face du globe. Solar a changé la face du monde. NTM, parce qu'en réalité, regarde, la France. Et je dirais même l'Europe, IAM, c'est peut-être le plus grand groupe européen de rap. Si tu regardes à travers l'histoire et si tu compares et tout, c'est...
En termes de longévité,
Pas juste en termes de longévité. Mais... Regarde, je vais te dire. Moi, j'ai grandi à Strasbourg, d'accord?
Ouais.
Strasbourg, nous, on est frontaliers de l'Allemagne.
Tout à fait.
On est, moi, je suis un peu, si tu veux, j'ai une pensée germanique assez affirmée. Je suis européen. Ouais. Eh ben, en Allemagne, IAM, ils ont eu une influence.
Ça existe, ouais.
Non, c'est pas juste que ça existe. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont influencé. En Grèce, IAM, ils ont influencé. En Italie, IAM ont influencé. Donc, c'est pas juste, non. C'est qu'ils ont marqué véritablement et ils ont changé les mentalités. Et ce que je veux dire par là, et même nous tous porter la culture hip-hop en France, on a changé les mentalités dans le monde. Et ça, c'est une réalité. Donc, si tu changes les mentalités, tu changes le monde. Et il faut en avoir conscience. Parce que le problème, à force, parce que ça arrange certains de dire qu'on n'a pas d'impact, en fait, on influence le monde et on bénéficie pas nécessairement de ce que ça nous apporte positivement. Et d'une certaine manière, on minimise notre impact dans le monde d'une certaine manière. Et c'est important de se magnifier parce que c'est réel. C'est pas juste de la beuflant et dire on est les meilleurs ou je sais pas quoi. C'est que c'est réel et surtout, c'est factuel.
Bon, vu que t'as dit changer le monde, c'est ça quoi, je pense à un morceau de Fab. Sur son dernier album, La Rage de dire changer le monde, voilà, tu viens de me rappeler ce morceau. Mais je propose qu'on écoute un morceau extrait de Fursi Héritage. C'est le morceau Si tu savais avec toi, Matteo Falcon et Wallen. On s'écoute ça et juste après, on se retrouve avec Abdal Malik.
Si tu savais le mal qu'on m'a fait, qu'on me fait, demande à Johnny. Voir son enfant blessé dans sa chair, demande à Marie. Oh, on ne cherche pas la vengeance, mais briser le cercle vicieux de la violence. On ne cherche pas la vengeance, mais briser le cercle vicieux de la violence.
J'ai dit aux cousses que t'étais ma muse quand on m'accuse. Tu connais ma cause, celle que je chéris. Tu me souris comme une valkyrie. Quand on m'opprime, que je déprime. Tu connais mon prime, la vérité prime. Ils veulent en faire un crime, notre romance. T'es maladie, vengeance. Ma seule et unique chance. Les gens ne dansent qu'avec les riches et les puissants. T'es ma protectrice.
Si tu savais le mal qu'on m'a fait, qu'on me fait, demande à Johnny. Voir son enfant blessé dans sa chair, demande à Marie. Oh, on ne cherche pas la vengeance, mais briser le cercle vicieux de la violence. On ne cherche pas la vengeance, mais briser le cercle vicieux de la violence.
Je ne suis qu'un homme qui essaie de briser ses chaînes. Tout nous échappe quand on te cherche de travers. Tu es synonyme de l'amour à l'origine. J'étais victime de mon propre homicide. C'est un suicide, c'est un suicide. Si tu n'apaises pas l'émeute qui bat dans ma poitrine, je ne serai que l'ombre de moi-même si tu ne m'aimes pas. Mais dans justice, il y a justesse, n'est-ce pas?
Si tu savais le mal qu'on m'a fait, qu'on me fait, demande à Johnny. Voir son enfant blessé dans sa chair, demande à Marie. Oh, on ne cherche pas la vengeance, mais briser le cercle vicieux de la violence. On ne cherche pas la vengeance, mais briser le cercle vicieux de la violence. J'ai pris de la hauteur, de l'altitude comme Thomas Pesquet. Est-ce demander la lune que de vouloir le respect? À travers nos blessures, je perçois la lumière. Ceci n'est pas une chanson, c'est une prière. Si tu savais le mal qu'on me fait, demande à Johnny. Voir son enfant blessé dans sa chair, demande à Marie. Oh, on ne cherche pas la vengeance, mais briser le cercle vicieux de la violence. On ne cherche pas la vengeance, mais briser le cercle vicieux de la violence.
Si tu savais, donc extrait du projet Fursi Héritage d'Abdal Malik.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Et sur ce projet, cet album, il y a plusieurs morceaux, notamment il y a un morceau avec un casting assez fou.
La vie est une épreuve, ne crois jamais le contraire. Ne tire plus jamais sur ton frère. Arrête le jaune Homer, mange plutôt la vie comme le homard. Je reste au village pour la faire comme dans Ozark.
En dépit du mal qu'on se fait, j'effacerai les séquelles. L'amour comme seule sentence. Que vive la France. En dépit du mal qu'on se fait, j'effacerai les séquelles. L'amour comme seule sentence. Vive la France.
Le diable instaure la peur, nourrit les flammes.
Ça me fait un peu de mal de couper Lino, mais il faut qu'on discute. Donc là c'est Lino qu'on entend, on a entendu Mac Taylor aussi avant. Comment tu construis le casting de ce projet? Tu lui as divisé, hein, que t'as amener des gens au studio pour voir le film, peut-être aussi pour discuter avec eux, certains d'entre eux se retrouvent sur le projet. Comment ça se passe? Parce que tu sais, d'un point de vue extérieur, je pense qu'il y a plein de gens qui imaginent qu'Abdal Malik aujourd'hui il est peut-être loin du rap, parce que t'as fait plein de choses depuis longtemps et que t'es aussi t'as exploré d'autres choses. Quand on parle avec toi, moi j'ai déjà parlé de rap avec toi, on sent que t'es toujours habité par ça. Tu as dit, tu te définis même comme un b-boy aujourd'hui. On sent que cette passion-là, elle s'est pas émoussée. Hein. Mais d'un point de vue extérieur, ça peut être surprenant de te voir avec Benjamin Epps, enfin avec tous ces gens-là. Comment toi, tu t'as construit tout ça ?
D'abord, ces gens-là, c'est pas juste des gens que je vois comme ça, c'est des frères.
Ouais.
C'est des gens, on a une vraie relation, et pour certains, depuis très longtemps. Et donc, si tu veux, l'extérieur voit ce qu'il voit. Mais la réalité, elle se vit... tu sais, quand c'est Bilal El Aswad, mon frère, qui a composé à la fois tout le score du film et à la fois tout l'album Fursi Héritage, sauf le morceau de Minister Hammer qui est composé par le légendaire Jimmy Finger. Nous, on s'est toujours dit, au moment où j'ai fait mon album Gibraltar, on s'est dit, à partir de maintenant, on va faire que ce qui nous plaît et que ce qu'on aime. Et on va travailler qu'avec les gens qui nous plaisent et les gens qui nous aiment, et on va faire fi de l'extérieur. Je pense que dans tout mouvement, il y a toujours ce fait du regard de l'extérieur, du regard de l'autre, qu'est-ce qu'il va penser, etc. Et en fait, comme nous, depuis longtemps, on fait fi de ça, alors du coup, les gens, on n'a jamais soigné une image extérieure en disant il faut qu'on soit comme ça, qu'on soit perçu comme ça. Donc des fois, c'est biaisé et puis les gens pensent des choses. Mais la réalité, elle est quand même basée sur des rapports humains. Le rapport que tu as avec des gens et puis le rapport à une passion. Par exemple, il y a des jeunes rappeurs... là ou juste Chani par exemple, ou Culture, ouais. Ou Samu, je les connaissais pas avant, mais c'est un partage de passion. Quand je suis en studio avec eux, quand je parle avec eux, je me reconnais, je me souviens, moi, langage, ouais. On parle le même langage, tu vois. Et c'est ça en fait le truc, c'est encore une fois faire fi de ce que les gens pensent ou disent sur toi et juste vivre ta vie et ta passion et avancer. Tu sais, puisqu'on parle du cinéma, une fois, évidemment en toute humilité, je le dis avec aucune prétention bien sûr, j'avais entendu Scorsese dire qu'il était un cinéaste rock'n'roll. Et moi, je suis un cinéaste hip-hop. Et pas juste, c'est pas juste une punchline que je te fais là. C'est-à-dire mon approche.
C'est présent dans ce que tu fais,
dans ce que je
manière,
fais, ouais. Comment la caméra elle va se poser. C'est nourri du travail de Hype Williams ou de. Enfin, il y a plein de choses comme
bien
ça. Le fait quand j'écoute les acteurs, je les écoute à l'oreille comme j'écouterais le 16, un des 16 que j'aurais posé, etc., etc. Donc c'est une culture. Et faut comprendre que le hip-hop, c'est une culture. Et le rap fait partie de cette culture, mais c'est une partie de la culture. La culture est pleine et
entière. Le film commence par du rap, d'ailleurs.
Complètement, ouais. Complètement.
Il y a quelques années, Fianso avait réuni Kulchen et Joe Star le temps d'un morceau sur le drapeau. C'était un événement.
Ouais.
Et là, t'as réuni Passy et Stomy le temps d'un morceau. Alors, Passy et Stomy, je crois, ont toujours été en bon terme, contrairement à Kulchen ou Joe Star où il y avait plein de fantasmes sur leur relation. Mais c'est un événement d'avoir un nouveau morceau ensemble de Passy et Stomy, vraiment. Comment t'as réussi ça ? Ça a peut-être été très simple, je sais pas, mais comment... C'est une prouesse !
C'est une prouesse, mais comme je te dis tout à l'heure, en fait, avant toute chose, c'est des rapports humains. Moi, j'ai toujours respecté Stomy et Passy, depuis le ministère Hammer. Moi, je connais le ministère Hammer, même quand il s'appelait Possy Hammer. Tu
ouais.
vois, le Hammer Possy.
Quand il y avait Moda dans
quand
le
y a,
groupe.
Quand il y avait Moda, quand t'avais Ahmed D,
ouais.
Y avait, voilà, ils étaient tous là, tu vois. Et moi, en fait... c'est des gens qui, s'il n'y avait pas, et je l'ai dit et je le redirai toujours, je le dis pour Aya, mais je le dis aussi pour Ministère Hammer, s'il n'y avait pas le Ministère Hammer, il n'y aurait pas Abdelmalik. Le Ministère Hammer, ils m'ont donné conscience de la fierté d'être noir, mais pas dans le sens noir entre nous. Noir, comme dirait Aimé Césaire, comme un département de l'humanité. C'est-à-dire qu'on pouvait parler de l'universel en partant du fait d'être noir. Alors que dans l'inconscient collectif, partir d'un endroit et parler d'universel, c'est presque, il faut être blanc, en fait. Et eux m'ont donné ça. Et ça, c'est, donc du coup, on fait pour te raconter l'histoire, il y a Ayam qui font le Vélodrome. Et ils nous invitent tous, c'était incroyable.
Il y a un moment magnifique où on a toute une, enfin,
on a fait
images
Demain c'est loin.
Il y a Demain c'est loin avec toute une, avec, tout le rap français quasiment.
On était tous là.
Magnifique.
Et c'était fabuleux. Et on s'est retrouvés, on était là avec, aussi avec le regretté Calbo. On a passé des moments merveilleux, on était là et tout, et je leur parlais de mon projet. Et à un moment, dans le train, je suis allé voir Stomy et Passy, j'ai dit, les frères, j'ai besoin de vous. Vraiment, et on a discuté et tout ça, et ils m'ont dit mais bien sûr et tout, et ils m'ont dit bien sûr on est là, et voilà, si tu veux, c'est d'abord un lien humain, un lien, mais c'est aussi en termes d'idées philosophiques, tu vois, et donc du coup ça a été très fluide, ça a été très simple, mais quel honneur ils m'ont fait, ils auraient pu dire ouais mais non,
oui, on là, préfère pas,
ou ils auraient pu dire ça, et ils m'ont béni quoi, d'une certaine manière, ils ont béni cet album, ils ont béni le morceau, et voilà, et en plus c'est une production de Jimmy Finger, ça veut dire que même ça s'inscrit, j'ai envie de dire, dans l'imaginaire secteur A, dans le truc et tout, ça s'inscrit dans une tradition, et ça c'est fabuleux qui m'ait permis ça.
Abdelmalik est avec nous jusque 23h. Alors, puisque évidemment, il y a le film dont on a parlé, on va continuer à en parler, mais t'es un artiste avec un parcours fascinant, mm-hmm. qui part, on l'a dit évidemment, du rap, mais même si le rap est encore en toi, vraiment du rap pur jus, avec un groupe qui s'appelle NAP, et NAP, ça ressemblait à ça.
C'est alors qu'un peuple barbare déferlera sur la terre, piétinant, tuant, laissant des souvenirs amers. Après avoir fait leur carnage, Dieu les détruira. Les derniers gens du bien seront autour du prophète Aïssa, qui auparavant aura déjà démasqué l'imposteur. Tous ces événements nous avertiront, ce sera l'heure. Alors coulera, tombera une pluie diluvienne. N'épargne rien, les gens attendront que le terme vienne. Pleine, la terre enfantera ses derniers fruits. Un millier de croyants se nourriront d'une seule femelle de chameau cuit. Dernier moment où...
Est-ce que tu te souviens de cette époque? Est-ce que ça te semble lointain quand tu entends ça? Ou c'est encore très, très vif dans ta tête?
Les deux. Okay. C'est en même temps vif et très, très, très lointain.
Parce que ta vie a bien changé, j'imagine.
Ouais, évidemment. Elle a bien changé, mais au-delà de ça, c'est que c'est une période qu'on peut pas expliquer à ceux qui l'ont pas vécu, parce que on était seuls, on était des pionniers, il y avait quelques groupes ici et là, il y ouais. avait déjà les légendes qu'on pouvait suivre déjà, qui étaient, mais si tu veux, la manière de penser, tout était différent. Et en même temps je me sens donc loin et en même temps proche, parce que l'énergie c'est la même, mon intention est la même. Là quand tu m'entends rapper, j'ai 23 ans, donc presque un quart de siècle après. Ouais, à peu près. Même plus qu'un quart de siècle après. Eh ben, j'ai la même mentalité. J'ai la même idée de la musique, de l'art, de ouais. la culture, ce que ça. En fait, c'est la même chose. Et bon, évidemment, avec de l'expérience et j'espère un peu de sagesse en plus. Mais, et en ce sens-là, c'est très proche, tu vois.
Est-ce que, à l'époque, puisque, je l'ai dit, t'as touché à plusieurs choses, même, sauf que si on parle de musique, il y a eu des albums surprenants avec des producteurs qui étaient parfois éloignés de la galaxie hip-hop, ce qui t'a pas empêché de faire des albums fondamentalement hip-hop dans l'esprit, mais en tout cas où la forme était différente. Est-ce que toi, dès ce moment-là, parce que je trouve qu'à partir du premier album, on sent que t'as des velléités, que t'as des envies aussi d'ailleurs musicalement, mais toi, à cette époque-là, au moment de NAP, est-ce que tu te dis qu'un jour tu feras autre chose, que tu feras du cinéma? Est-ce que t'as ça dans un coin de ta tête ou c'est encore beaucoup trop lointain?
Ah non, j'ai ça dans un coin de ma
tête. T'avais un plan quelque part?
Est-ce que c'est un plan que de savoir où on veut aller? C'était, si tu veux, en fait, moi je fonctionne par des passions. Et en fait, ma première passion, forcément, c'était l'écriture, le rap. Ouais. Mais la littérature, déjà, je me disais, il faut que je sorte des bouquins. J'avais ça en tête. Je me disais, il faut que je sois cinéaste. J'avais ça en tête parce que c'était des passions. J'aimais le cinéma et j'aimais la littérature. J'aimais le théâtre. Donc, je pensais en termes de mise en scène. Tout ça était là. Mais je me disais quand même, procédons par étapes. Et puis, tout simplement, les choses allaient se... Mais c'était là. Ça a toujours été là. C'est pas un truc qui est venu au courant du parcours, c'était déjà là. Mais je savais, est-ce que j'allais le faire? Est-ce que j'allais réussir? Est-ce que ça, c'était une autre question? Ouais.
C'est vrai, parce que j'avais une question, mais tu y as un peu répondu. J'avais envie de te demander, avec tout ce que tu fais, est-ce que tu te cherches encore? Ou est-ce qu'au contraire, tu sais exactement ce que tu fais? J'ai l'impression que tu sais exactement ce que
non,
tu fais.
Non, c'est les deux.
Ok.
Il faut avoir. Je sais. On ne sait jamais exactement ce qu'on fait. On espère, on voudrait, on pense. Mais on se cherche dans le sens. Comment dire? De toujours être aligné avec soi-même, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme si t'avances, il se passe des choses, tu dévies un peu, faut revenir. T'avances, et en ce sens-là, c'est pas tant se chercher dans le sens que tu te connais pas, c'est dans le sens de la cohérence. Rester cohérent avec tes valeurs initiales, avec ce que t'as envie d'être, l'être que t'as envie d'être, ne serait-ce que par rapport à tes enfants, par rapport à tes proches, c'est ça en fait. Plus jeune, c'était par rapport à ma mère. En grandissant, c'est par rapport à mes enfants, etc., bien etc., sûr. Tu vois. Mais il y a cette idée de cohérence. Ça, c'est important.
Au début de la discussion, tu disais que toi, finalement, tu n'as jamais vraiment fait attention au regard des autres. Tu sais, en tout cas, que tu avais tes envies, que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est aussi ce qui a motivé notamment la musique de Fursi, enfin Fursi Héritage. Est-ce que, quand toi, tu pars en solo, tu sais, et que tu as du succès, notamment avec Gibraltar, qui me semble être un moment quand même pivot ouais, dans ta vie, dans ta carrière, et à ce moment-là, tu intègres aussi d'autres cercles, tu sais, même mainstream, et avec parfois aussi des gens qui t'aiment, mais qui parlent un peu bizarrement de ta musique, tu sais. Ouais. Parfois on dit que c'est du slam, parfois, enfin, il y a beaucoup d'incompréhension. Mmh. Et j'imagine aussi qu'il y a aussi une incompréhension de la part du même du milieu rap, du milieu hip-hop, tu sais, qui se dit il est plus avec nous, ou qu'est-ce qu'il fait, ou on comprend pas, tout simplement, tu sais. Ce qui est un peu raconté, c'est pas du tout le même parcours, mais dans le documentaire autour de DJ Mehdi, paix à son âme, quand justement on voit que ses potes du rap ne comprennent pas quand lui va vers autre chose, alors qu'il reste hip-hop dans l'esprit, est-ce que ça a été compliqué à ce moment-là, tu sais, où d'un côté, il y a un vrai succès, et tu t'es salué, et de l'autre côté, il y a une incompréhension de la part d'une partie des gens qui sont autour de toi.
C'est marrant, et en plus que tu évoques Mehdi, c'est marrant parce que avec Mehdi, j'ai eu ces discussions plusieurs fois, parce que on avait ce parcours similaire quelque part, donc on avait ces discussions là. En réalité, à partir du moment, je l'ai dit tout à l'heure, quand on est rentré en studio, c'est-à-dire l'album n'est pas encore fait, on est rentré en studio avec Bilal pour faire Gibraltar. On avait, d'une certaine manière, on avait une ligne directrice. La première ligne directrice, c'est à partir de maintenant, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant, à partir de maintenant, on fait absolument ce qu'on veut, en faisant fi de tout.
Mais il faut avoir du courage pour ça.
Mais en réalité, courage oui et non, c'est-à-dire il faut avoir le courage d'être soi. Parce que à partir du moment où tu choisis d'être toi, forcément, à certains ça va plaire, d'autres ça va déplaire. Même par exemple, tu vois, t'as dit certains médias qui disaient le slam. Mais moi, ils disaient le slam et tout ça. Mais est-ce que tu m'as déjà entendu contester ça?
Ouais.
En fait, je contestais pas. Dites ce que vous voulez. C'est votre perception. Après tout, vous avez raison. Puisque c'est votre perception. Mais par contre, me concernant moi, jamais on m'a dit, alors, qu'est-ce que vous pensez de votre musique? C'est quoi? Comment définirez votre... On m'a posé ces questions au Japon, pour te dire. Mais on me les a jamais posées. Et si on me les avait posées, j'aurais dit, mais c'est pas du slam, c'est du rap. Et j'aurais expliqué pourquoi je considère que c'est du rap, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, pour tout être humain, il est important de comprendre que son meilleur ami, la personne la plus importante, qui finalement ne nous lâche jamais du berceau à la fin, c'est nous-mêmes. Donc on doit prendre soin de nous-mêmes. Et ces discussions-là, au début, donc parmi mes frères du rap, il y avait des incompréhensions et tout. Et des années après, j'ai discuté avec ces mêmes frères et ils comprenaient. Et parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il faut respecter aussi la démarche de chacun. C'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas d'accord et tout ça, et toi t'es pas d'accord, tu dois respecter aussi son désaccord ou sa vision. Et après on va voir ce que la vie nous réserve. Et très tôt, nous on a pensé comme ça. Et je pense que c'est ce qui nous a permis, quand je dis nous, c'est-à-dire moi et... C'est pas un nous de majesté, mais c'est moi et mon crew, Bilal, Mathéo, tout le monde. C'est ce qui nous a permis finalement d'être libres en fait, tout simplement.
Gibraltar, pour info, ça ressemblait à ça.
Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui boit, dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu.
Abdel Malik, est-ce que... Bientôt, je veux une que la réponse sera eux, mais est-ce que tu connais Isha et Limsa?
En fait, je les connaissais pas ou peu, et je les ai connus parce qu'on m'a appelé un jour, on m'a dit, mais t'as entendu, ils ont fait un titre, le truc et tout ça. Mais juste un truc, juste par rapport à Gibraltar.
Oui, je t'en prie.
On va fêter les 20 ans de Gibraltar et je vais partir en tournée. On va faire que Gibraltar sur scène.
Ok.
Voilà, ça va être vraiment.
Comme quoi, c'est un album aussi qui est évidemment important pour le public, mais important pour toi aussi.
Ah, bien sûr, c'est l'album qui
a changé quelque chose.
Ouais, en fait, il y a un avant et un après. Ouais. Si on devait faire, il y a avant Gibraltar et après Gibraltar. Si je disais ça.
Bah, c'est une info qui me plaît. Voilà. Ah, oui.
Mais ouais. Donc, j'ai entendu ça. Et en fait, quand on m'a parlé d'eux, donc j'ai écouté le titre. Une fois que j'ai entendu le titre, je l'ai fait écouter à Wallen, on a écouté et tout, et on a voulu en savoir plus sur eux.
Ouais, okay.
Donc on a écouté davantage et tout, et franchement, ils sont très très bons.
Ils sont très forts, et je trouve sincèrement que le morceau Abdel Malik Ewen, c'est le meilleur morceau de Bitume Caviar, volume 2. Wow. Donc je propose qu'on l'écoute.
Ah bah,
c'est du rap, et c'est la dédicace, c'est cool en plus.
Ouais, non,
donc
c'est
voilà,
beaucoup de respect pour eux.
Isha et Limsa, Abdel Malik Ewen, extrait donc de Bitume Caviar, volume 2.
Si j'aime bien ces trois chiffres, ASB j'aime bien ces trois lettres, aéroport d'Orly, Air Wassy, jette la coca dans les toilettes. Le projet ça fait longtemps que tu l'attends, ça m'appelle Ali, j'ai moi-même un sale arabe, un sale congolais comme Abdel Malik et Wallen. Moi aussi je fais partie de ce continent. Ils m'ont fait une propale, j'étais déçu des hommes. J'ai quitté la maison, je suis en Inde. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu des ordres. Je suis mon propre patron, chaque mois je verse mon salaire et le fixe. Quand je suis en vacances, chaque story peut alerter le fils. Ils font des albums avec mes phases, ils font des albums avec mes flows. Ils font rire leurs meufs avec mes vannes, l'impression d'être en concu avec mes fans. Et vous, faut que vos ancêtres avouent que l'or que vous portez est à nous. Mais comme un sketch de Barbuchet, c'est à vous. Pour l'instant, je sais que c'est à vous. Toute une existence à combattre ses démons. Des fois je me dis que ce serait chiant mais qui gagne. La lumière et l'ombre, la vie et la mort. J'arrive pas à changer mon champ lexical. Mec du ghetto, le tier 42. On n'a jamais vu nos darons pleurer. Elles ouvraient leur courrier, l'air de rien. On n'a jamais vu nos mères se plaindre. Même en grandissant j'étais affectueux. Mais j'aimais plus trop qu'elles m'appellent Choubidou. Aujourd'hui je me sens fort, j'ai bu l'eau de Zum Zum et celle de Bernadette Soubirou. Dis à ton père de pas faire de blagues racistes. En vrai c'est mieux qu'il gère ses sales manies. La frustration elle me rend silencieux. Maintenant c'est comme ça que ça se traduit. On a grandi dans le vice. Nos bébés naissent dans le feu. On fera des lignées de bandits et pas des descendances pieuses. Une existence à combattre ses démons. Des fois je me dis que ce serait chiant mais qui canne. La lumière est l'ombre, la vie et la mort. J'arrive pas à changer mon champ lexical.
Abdelmalik et Wallen, donc morceau de Isha El Imsa, extrait de Bitume Caviar volume 2, en hommage évidemment à notre invité du soir, Abdelmalik.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Abdelmalik, puisque tu viens de réaliser un film, je me dis que j'avais envie de parler de quelques artistes, chanteurs, rappeurs, qui eux aussi sont passés à la réalisation de films. Et tu me dis ce que tu en penses, si tu as envie de réagir. Et je voulais commencer avec quelqu'un dont tu connais bien la carrière, c'est Reza. Évidemment, cerveau du Wu-Tang, un homme qui a toujours pensé le rap comme un univers un peu total, musique, cinéma, mythologie, arts martiaux, philosophie. Et Reza, en 2012, il réalise The Man with the Iron Fist. Je sais pas si tu l'as vu, L'homme au poing de fer. C'est un film assez surprenant, donc un film de kung-fu ultra référencé, assez violent, qui arrive quelques années d'ailleurs après Kill Bill, sur lequel Reza avait travaillé. I swear to God that they get you going crazy, but you play it off and say, how's work, baby? Well, some of the models is too coped to walk straight, but seem to still love the man that they all hate. But babe, I call you back and say you say that always. It kept me on the phone and demanded they always see. Ça, c'est pas Reza, hein. C'est Kanye, évidemment, hein, je le dis. Je me suis pas trompé, parce que c'est un morceau qui s'appelle White Dress, qui avait été fait pour la BO, de ce film. Et en fait, c'est vrai que ces films, c'est un peu, quand tu connais l'univers de Reza, une déclaration d'amour, en fait, à toutes ces influences, notamment à la Shaw Brothers, qui était une société hongkongaise spécialisée dans la production et la distribution de films de cinéma, bien sûr au cinéma d'arts martiaux des années 70 qui l'ont construit, et aussi à la culture afro-américaine qui s'est aussi construite en dialogue avec ces films. Et Reza fait pas vraiment un film de rappeur, il fait un film aussi un peu politique déguisé, puisque c'est un film où les corps dominés prennent le pouvoir, où la violence est stylisée comme un langage, où la transmission est centrale, et surtout, Reza fait quelque chose de fort, il montre que le rap a toujours été très cinématographique, et le Wu-Tang est un excellent exemple de ça. Est-ce que t'avais, oui, suivi le passage de Reza derrière la caméra? Parce que c'est un film qui, bon, que j'étais allé voir au cinéma à l'époque, avait pas eu énormément de succès, et qui était aussi, je pense, presque dans la galaxie Kill Bill quelque part, mais avec un ADN de Reza très fort. T'avais aimé ce moment-là?
Moi, j'avais aimé parce que j'aime, j'aime les rappeurs qui nous proposent autre chose, qui utilisent d'autres médiums et tout. Et ça a été un bon divertissement, je vais dire. J'ai passé un bon moment. Mais là où il m'a plus impressionné, c'est à la télé. C'est ce qu'il a fait avec le Wu-Tang, la série sur Wu-Tang.
Exactement, tout à fait.
Ça, oui. Ça a été vraiment, je me suis dit, waouh. Parce que c'est le showrunner, c'est lui le showrunner tout. Et on retrouve d'une certaine manière comment il a géré cette série. On retrouve le Reza du premier album de Wu-Tang, quoi. C'est-à-dire cet esprit mastermind un peu qui est là et qui fait. Là, je le retrouve davantage qu'au cinéma. Le cinéma, c'est quand même, c'est particulier le cinéma. Il y a quelque chose où il faut. Il y a un truc particulier sur le cinéma. Et c'est une sensibilité qu'on peut avoir pleinement ou un peu, etc. Donc, en termes de film expérimental, j'ai trouvé ça mortel. Mais moi j'aime, comment dire, toute la puissance de Reza, hors de la musique, moi je l'ai plus trouvé dans la série, ouais.
Changement de décor maintenant, pas de sabre, pas de cinéma de genre, mais il y a banlieusard en France, évidemment, avec réalisé par Kerry James, qui fait un film aussi très réaliste, presque pédagogique, un film qui raconte la banlieue sans romantisme, sans fantasme.
Lève-toi et marche, c'est un pour les miens, arabe et noir pour la plupart et pour mes papetous, prolétaires et banlieusard, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée, car à ce jour, il y a deux France qui peut nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous, mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat, regarde-moi.
Et c'est intéressant parce qu'à la base, pour Banlieusard, c'est un morceau, ouais, qu'on vient d'entendre, non, enfin, un extrait de Kerry James qui est sorti en 2008 sur l'album À l'ombre du show business. Puis finalement, ça est devenu un film, même deux films, et même trois films, et donc, ouais, car un troisième va arriver. Important aussi de noter que c'est des co-réalisations pour le coup avec Leïla Sy, qu'on a d'ailleurs reçu les deux dans l'émission. Comment tu vois aussi maintenant le lien entre rap et cinéma? Parce que dans le cinéma, dans le rap américain, pardon, finalement, il y a eu très très tôt des liens des rappeurs qu'on a vus au cinéma, vraiment Ice-T, enfin, très tôt c'est arrivé. Ouais. En France, depuis quelques années, c'est devenu de plus en plus fréquent, soit via de l'acting, soit via de la réalisation. Comment tu vois cette espèce de lien grandissant entre rap français, francophone et cinéma français?
Mais ça va aller encore en grandissant et en grandissant. Parce qu'en réalité, même le rap, on a toujours été inspiré par le cinéma. Il y a des écritures cinématographiques, celle d'Oxmo, à l'époque celle de Faf Larage. Ouais. Enfin, il y a plein de. On a toujours été dans.
Plus récemment, Laylo, qui est la
dernière. Ouais, exactement. Exactement. Et ça, on a toujours été dans cette, ouais, dans cette dynamique-là. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va aller en grandissant. Et surtout, le cinéma, c'est une sorte d'art total. Donc ça intègre très naturellement l'idée du rap et de la poésie. Ayam aussi, quand Chill, il avait fait son film Comme un aimant.
Bon film,
aussi,
hein.
Bon film. Et c'était aussi tiré dans l'album Ombre et Lumière, je crois, d'un morceau qui s'appelait Comme un aimant. Aussi.
L'aimant.
L'aimant.
Je crois que c'était l'aimant. L'aimant. Morceau extraordinaire. Ouais, ouais.
L'aimant, mais le refrain, il disait Comme un aimant.
Tout à fait. Tout
et
à
en fait. Fait, et en fait, c'est naturel. This is La Peste aussi, qui a très tôt joué en tant qu'acteur. Ouais. Et même son clip, c'était cinématographique.
Je pète les plombs. C'était inspiré du film Chute Libre.
Chute Libre.
De Joël Schumacher. De Joël avec Schumacher. Douglas. Avec,
exactement.
Avec film extraordinaire. Douglas, ouais. Et le regretté Robert Duval, qui joue le policier. Ouais, ouais, j'adore, ouais, ce film. Mais c'est vrai, il y a toujours eu des liens.
Il y a toujours eu des liens. Évident. Et ça va continuer. Ça va continuer. Ouais. On a plus d'expérience. On a une compréhension aussi différente des choses. Et ouais, et Kerry James en est une preuve vivante.
Puisqu'on parle de Reza tout à l'heure, tu disais que ta manière de réaliser aussi, elle était finalement aussi influencée par le hip-hop. Il y a un lieu commun, moi, qui me semble pas faux, mais c'est de dire que Tarantino est un réalisateur hip-hop, parce que finalement, il y a toujours un peu du sampling, tu sais, il prend des éléments un peu partout, il les colle et ça crée quelque chose de nouveau. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu apprécies le cinéma de Tarantino, qui peut aussi être décrié, mais il y a un lien aussi avec Reza, puisqu'on en a parlé?
Ouais, ouais, en plus, ils sont amis. Ouais. Non, en fait, le cinéma de Tarantino, d'un point de vue formel, si on doit parler, je trouve que c'est un très grand cinéma, formellement parlant. Après, il y a une dynamique philosophique, notamment le rapport à la violence,
ouais, tout à fait,
etc. Moi, qui me gêne absolument.
Qui te sort, ok.
Ouais, qui me gêne parce que, encore une fois,
il la stylise et ça te.
Ouais, ouais. Pour moi, on joue pas avec la violence. Et ces gens-là, ils jouent facilement avec la violence parce qu'ils l'ont pas nécessairement connue comme nous on l'a connue. Et quand t'as connu la violence comme nous on l'a connue, tu peux pas t'amuser avec. C'est impossible. Même si tu voulais, même si on te disait c'est mieux, tu n'arriverais pas en fait. Et tous ceux qui jouent avec la violence comme ça de manière, c'est parce qu'ils l'ont pas réellement connu. Donc ça me gêne un peu. Mais la passion du monsieur en tant que, oui, cinéaste et tout ça, y a aucun problème. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui sur ça. Donc j'ai pas, c'est et donc voilà. Mais dire que c'est un réalisateur hip-hop,
tu l'as peut-être lu ça en tout cas.
Mais non, mais parce que ce que tu dis, tous les réals font ça. Tous les réals. J'ai envie de dire, tous les réals se nourrissent et empruntent, volent des scènes, des trucs. Ils l'ont toujours fait. Bergman l'a fait. Tout le monde fait ça. Donc, ça fait pas autant pour eux des réalisateurs hip-hop. Non, réalisateur hip-hop, c'est pas juste une manière de faire. C'est surtout une manière d'être. Mmh. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que tu peux être réalisateur hip-hop et faire un film totalement classique. Mais vraiment, c'est-à-dire académique au plus haut point et tout ça. Mais ça n'empêche que tu seras hip-hop pour des raisons qui seront les tiennes. Et après, tu nous expliqueras et on verra. Mais ça va plus plus loin que ça. Et dans ce sens-là, en ce sens-là, je pense que c'est quelqu'un qui est amoureux du hip-hop, qui aime le rap et tout, mais je le définirais pas comme un cinéaste hip-hop ou rap.
Très bien. Il y avait aussi un autre exemple qu'on aurait pu citer, c'est Bob Dylan, qui lui, en 78, c'est déjà une légende, hein, ce moment-là, Bob Dylan, et il sort un film que je n'ai pas vu, qui s'appelle Reynaldo and Clara, qui est un film apparemment étrange, décousu, et qui dure plus de 4 heures. Enfin, le premier, le premier montage durait 4 heures, et a été évidemment détesté par les gens, mais qui devient maintenant, est devenu un peu un objet culte.
Bob Dylan, quoi.
Voilà, Bob Dylan. Exactement, voilà. Ouais. Nous sommes avec Abdel Malik, jusque 23h. Abdel Malik, je te dis des phrases.
Ouais.
Tu me dis si elles sont vraies ou fausses et tu m'expliques pourquoi.
Ouais.
Le rap français, c'était mieux avant.
Faux.
Pourquoi ?
Ben, parce que en réalité, quand on a été avant, et j'ai été avant,
ouais.
Je veux dire, aujourd'hui, tu sors un album comme tu veux, tu peux gérer ton propre business, tes masters t'appartiennent, etc. Nous, on était des ouvriers du truc. On travaillait pour des majors, etc. Et nous-mêmes, beaucoup d'entre nous, on était à la cité, donc fallait gérer. On était. Bilal, il avait une expression une fois, il disait, on est pauvres et célèbres. C'est-à-dire, on était des En fait,
oui, les gens connaissaient votre visage dans la rue, mais vous n'aviez pas le compte en banque.
Ouais, on était. Alors qu'aujourd'hui, c'est totalement différent. Ça veut dire aujourd'hui, tu fais le rap que t'as envie. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui décide entre guillemets d'être invendu, et ben il l'a décidé. Il est pas, on l'a pas forcé. Alors qu'à l'époque, il y a des gens qu'on considérait comme des. Mais en fait, ils voulaient pas être comme ça. Mais il y a
pour marcher, il fallait.
Ouais,
faire
et puis il y a des pressions. Il y avait des gens derrière qui disaient fais comme ça, sois comme ça et tout ça. Et voilà, ce qui était entre guillemets mieux avant, c'est comme pour tout le monde. Quand tu vieillis, eh ben tu idéalises ton passé. T'as une, tu l'angélises, tu
bien
mets
sûr.
Des. Et puis ceux qui l'ont pas vécu aussi, ils l'idéalisent. Il y a plein de, moi je vois plein de gamins qui c'est des fans des années 90. Et ils connaissent tous nos trucs. Ils savent tout sur tout, mais ils étaient pas là. Donc, le rap, c'était mieux avant. Moi, personnellement, je c'est faux.
Jay-Z est le plus grand rappeur de tous les temps.
Oui, c'est vrai. et on en avait parlé, tu te rappelles?
Ça serait bien d'un dîner. On a beaucoup parlé de Jay-Z, oui.
Ben ouais, après ça veut pas dire que c'est le meilleur. Mais objectivement, factuellement, si on devait regarder ce qu'il a fait, la carrière, les accomplissements, et puis le talent, si tu veux, les choses... il faut dire, franchement, il y a personne, tu peux pas mettre en comparaison.
Je pense qu'il y a plus de discussion pour toi aujourd'hui, c'est comme dans le football, tu sais, maintenant c'est Messi. J'ai l'impression que elle est un peu clos, la discussion, c'est Messi qui a gagné. Est-ce que tu penses que dans le rap, c'est Jay-Z, qu'il y a plus vraiment de discussion possible?
Il y a plus de discussion. Mais je pense que, par contre, tu vois, t'as dit ça de Messi, par exemple, avant c'était Pelé, il y avait pas
tout
de discussion.
Fait. Absolument.
Et je pense qu'il y aura, il y a quelqu'un qui va venir et il y aura plus de discussion non plus. Avant, pour moi en tout cas, avant Jay-Z, c'était LL Cool J et il n'y avait pas de discussion. Et bon, même si LL Cool J, il pense qu'il est encore...
Oui, il me l'avait dit en interview
ouais,
d'ailleurs.
Ouais, mais tous les rappeurs vont te dire que c'est eux. Ouais. Mais après, si on regarde concrètement par rapport à l'accomplissement, l'impact, et un impact qui n'est pas nécessairement positif. Hein. Quand je dis Jay-Z, il a eu un impact, il n'a pas eu nécessairement un impact positif, et on peut en parler. Mais force est de constater néanmoins que c'est lui, quoi.
Dans cette histoire, tu sais, de numéro 1, etc., Jay-Z, à un moment, il s'est battu pour être numéro 1, il le disait. Toi, t'as jamais été là-dedans. Ou est-ce que si, est-ce qu'il y a un moment où t'as voulu être le meilleur rappeur français ou le meilleur artiste ou tu réfléchis pas à la musique comme ça?
Ouais, c'est pour ça que je te dis, il y a un avant et un après. Quand j'étais plus jeune, quand on était avec NAP, on était là, on faisait les trucs et tout, j'étais dans cette pensée-là. Okay. Et je pense que cette pensée-là, elle est importante pour arriver. C'est un moteur de fou.
Ouais.
Mais après, très vite, tu te rends compte que ce qui est important, c'est ta singularité. Par contre, je me suis battu pour être singulier. Je voulais pas ressembler à qui que ce soit. Je voulais pas qu'on dise c'est. J'aime pas, par exemple, c'est le nouveau Intel ou truc. Ça, c'est un truc. Moi, et pareil pour le hip-hop. J'ai jamais été un suiveur. Pour moi, le hip-hop, c'est moi. Le rap, c'est moi. Et c'est important de penser comme ça pour cultiver la singularité. Après, évidemment. Donc du coup, j'ai pas été dans ce truc de qui est le numéro un et tout ça parce qu'en réalité, ça n'a pas vraiment de valeur. Parce que une fois que t'es numéro un, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Ouais. C'est fini.
C'est ça.
Bon, puisqu'on parle de singularité, je te propose qu'on écoute un morceau d'un artiste britannique qui s'appelle Wesley Joseph et qui invite, alors si on parle de singularité, un des rappeurs américains des dernières années les plus singuliers, c'est Danny Brown, un rappeur exceptionnel. Ouais. Ils ont collaboré sur le morceau Peace of Mind et on l'écoute tout de suite. Push me up, push me up, push me up, push me up, push me up. I'm already close to the edge. Smile in my face with my toes on the ledge. If I don't do what I already said, well then fuck it and pull up, I'm already dead till I'm done. I'm still outside, dog.
a swine. Spirit receiver side inside my peace of mind. Oh no. Yeah, I'm still outside, spilling wine. Family ties still in line. It's peace of mind. Oh no.
Dirt on my old nights. Yeah, that's a throwback. Now I'm shining like I'm Kubrick. To the movie Go Black. Done with the news, I'm done with the net. Done with the views, I'm done with the press. Recording the tears that I never shed. As a devil alive from looking in red. I look to the sky, ain't no silver line. The snakes in the grass, they barely disguise. Ain't nothing ever too hard to believe. It's all that I see, I'm just believing my eyes. Anxiety's still in the back of my mind. Been dealing with that from way back in 09. The point of putting all this money aside. These songs is all I'm really leaving behind.
Cause I'm still outside, duck and swine. Spirit receiver side inside my peace of mind. Oh no. Yeah, I'm still outside, spilling wine. Family ties still in line. It's peace of mind. Oh no.
Sneakers tied, dice the Grim Reaper day. Pictures of Mona Lisa. Creature get pussy by the beaches in the rain with a margarita. Oh no, don't count me out. In the hot soup, don't drop snot. Cause the fish do not get caught unless it open its mouth. And the race of time lost my mind. Stepping over dollars just to pick up a dime. Close to the ledge, can't lose my head. Ain't get no younger, got a jagged edge. Out my mind, outside all day. Can't cover up piss slack in the hallway. Someone in Mixville, I'm getting my bills. Pray to bring it back just to get another kid.
I'm still outside, talking swine. Spirit receiver side inside my peace of mind. Oh no. Yeah, I'm still outside, spilling wine. Family ties still in line. It's peace of mind. Oh no.
In love with the skin that they have to attach. Truth and a lie, depend how you sell it. I flip the Shimon and go back to black. Black out the room, no sign of a blemish. Thank God for my imagination in a small town, talking domination. I've been off bounds, no test patience. I've been ducking, cooking, living what you tasting on.
59's 50 days to the sunrise. Hope I make the song good. In the black and night, caught straight.
Ain't no dwelling on feelings, I'll never get back. Shimmy, I'm back to the bone. Just push me out, push me out, push me out, push me out.
C'était Peace of Mind donc de Wesley Joseph et Danny Brown.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Abdelmalik, c'est l'heure des recommandations. Uh-huh. Je m'en ai envoyé plusieurs.
Ouais.
Et notamment un film de 2007 qui s'appelle
L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford d'Andrew Dominik.
Exactement, avec Brad Pitt.
Avec Brad Pitt.
Qui est,
avec Casey Affleck.
Exactement, Frère 2.
Frère 2.
Qui a aussi une belle carrière de son côté. Notamment dans des films de Ben Affleck, d'ailleurs, dans Gone Baby Gone, je pense.
Totalement.
Pourquoi ce film?
Et puis, il y a aussi la musique de Nick Cave et Warren Ellis, qui
absolument
est particulièrement bouleversante.
Ouais.
Ben, parce que pour moi, c'est l'un des plus grands films qui ait jamais été fait, de mon point de vue.
Okay.
Tout y est parfait. Le travail du chef-op est incroyable, la lumière est incroyable. C'est peut-être l'une des plus belles prestations de Brad Pitt, même si, Casey Affleck, il nous fait un truc. C'est incroyable ce qu'il fait de nuances, d'intelligence. Le film est intelligent, enfin c'est il faut le voir absolument. Et c'est marrant parce que lorsqu'il est sorti, il a
exactement. Moi je me souviens de ça, de la sortie qui n'était pas
ce qui était pas, et même les critiques, je me rappelle, j'ai gardé d'ailleurs une critique, je crois que c'était une critique de Libé. Je sais pas s'ils étaient positifs sur le truc et tout ça. Et donc moi j'ai vu le film et je me souviens, j'ai vu le film, j'étais très fatigué quand j'ai vu le film. Et donc j'ai pas vraiment apprécié. Je trouvais ça bon et je l'ai revu plus tard. Et par accident, parce que je regarde jamais les films en français, on va dire, quand je les regarde en VO, et par accident, je l'ai regardé en français. Et en fait, en français, il était encore plus fort qu'en VO. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé. Et j'ai parlé avec les gens qui ont fait le doublage de ce film, et ils m'ont expliqué comment ils l'ont fait et tout. C'est incroyable. Il faut le voir. Il y a le narrateur. Le narrateur, c'est cet acteur français dont j'ai oublié le nom, bien sûr. Ça m'échappe là, mais ça va me revenir. Et il est magnifique, le film. Magnifique.
Ouais, moi j'aime beaucoup ce film, mais effectivement, je me souviens que moi je l'avais pas vu au cinéma, je l'avais acheté en DVD un peu après. J'avais beaucoup aimé le film, mais qui me semblait être un film pas méconnu, mais en tout cas, un peu sous-côté, en tout cas, au moment où il est sorti. Ouais. Et il est rarement cité dans les grands films de Brad Pitt, tu sais, alors que c'est effectivement un de ses films, à mon avis, les plus beaux, en tout cas.
Et puis Andrew Dominik, c'est lui qui a fait après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Blonde, le dernier, Blonde sur Marilyn Monroe qui est sur Netflix.
Oui, oui.
Le truc, c'est lui.
Bien, ça, je l'ai pas vu.
C'est un peu trash, c'est un peu truc. Mais là, le travail de mise en scène est intéressant. Mais en tout cas, Andrew Dominik, pour moi, c'est l'un des réals les plus intéressants. Et lui aussi, il est un peu sous-côté, alors que c'est un réalisateur de fou furieux. Et il travaille beaucoup avec Brad Pitt. D'ailleurs, c'est toujours Brad Pitt qui produit ses films.
Il est producteur également. Un album, c'est l'album OG de Pete Bacardi.
Elle m'a touché. J'ai jamais été seul, c'est ma rue qui m'a poussé. Et j'ai tout fait. J'ai survécu à tout, mais combien sont fait coucher. Tu me remets, je me suis refait. J'ai levé les foules, laissé ma trace pour mourir en paix. Tu me remets, je me suis refait. J'ai levé les foules, laissé ma trace, faut mourir en paix.
Alors pourquoi cet album de Pete, qui était aussi dans l'émission d'ailleurs il y a quelques mois de ça?
Parce que Pete Bacardi est un cas d'école. C'est quelqu'un qui à un moment donné a disparu, a disparu de notre point de vue.
Ouais.
Il allait en Afrique, enfin il avait.
Tout à fait.
Et puis il est revenu et pour moi il a fait un run extraordinaire. C'est-à-dire il est revenu, il a fait et il a sorti les morceaux qu'il a sortis, son concert. Et je lui dis à chaque fois, le concert à l'Olympia, son concert qu'il a fait, j'ai pas pu y être parce que j'étais à ce moment-là, je présentais mon film quelque part. C'est historique. En fait, c'est quelqu'un. C'est la preuve que le rap, c'est des artistes et c'est du talent. C'est-à-dire, qu'importe si on t'a plus vu ou t'as fait autre chose, si t'es un MC, si t'es un rappeur, si t'as l'amour de cette culture, quand tu reviens, tu reviens en fait. Et puis voilà, et puis en plus de tout ça, c'est un être humain extraordinaire. C'est quelqu'un d'une extrême sagesse, d'une extrême intelligence. Et c'est un MC de fou. Pete, il pose, il kick, il est là. Et voilà, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est un frère, mais au-delà du fait que je l'aime beaucoup, parce que ça, on met ça à part, mais pour moi, c'est un artiste incroyable et il a fait un run magnifique.
Est-ce que c'est pas aussi une leçon, tu sais, on dit souvent, et à mon avis, de plus en plus à tort, que le rap, c'est un truc de jeunes, tu sais, ouais. Et que ça doit être pratiqué par les jeunes. Et je crois qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de preuves du contraire. Évidemment, souvent, ce sont les jeunes qui vont, les nouvelles générations qui vont dynamiter le rap, ramener de nouvelles influences, des choses aussi de leur époque. Mais je crois qu'il y a aussi de plus en plus d'artistes aujourd'hui qui, Pete, il est pas vu, hein, mais en tout cas, qui prennent de l'âge, tu sais, qui n'ont pas 20 ans et qui sont pertinents. Et je crois que ça, c'est de plus en plus le cas.
Ouais, de plus en plus. C'est-à-dire, même ta question, elle est déjà ancienne.
Parce qu'en
réalité, je sais même plus si ça se pose. Quand The Clips, ils arrivent et ils font leur truc, on se pose même pas la question. C'est juste que ça défonce. Et puis c'est tout. Mais, néanmoins, de mon point de vue, il y a eu un moment bascule. Et ce moment bascule, c'est le versus Lox Deep Set.
Extraordinaire.
C'est ça qui et c'est Jadakiss en réalité.
Jadakiss.
Il faut.
Quand il ce monologue à la fin sur Wushot Chad ouais. de Biggie, j'ai ouais. des frissons rien que d'en parler.
Ben,
c'est extraordinaire.
Et ben c'est ça le moment bascule.
Ouais, tu
c'est
penses
Non mais c'est pas que je pense, j'en suis convaincu. C'est-à-dire qu'avant ça, on pouvait dire ce que tu dis. Ouais, les anciens ils sont ouais. là. Mais après ça, on se posait même plus la question. C'est-à-dire non seulement les anciens ils sont là, mais ne nous posons plus même cette question parce que dans les autres genres musicaux, on s'est jamais posé ces questions-là.
C'est vrai.
Mais après, c'est aussi le truc de le rap game, le fait de comparer les rappeurs aux sportifs, ce que je trouve moi totalement hors sujet de mon point de vue, mais que je peux comprendre lorsqu'on a une vision de stats, de trucs, de tout ça. Pour moi, c'est de l'art. Et un artiste, il est pertinent à tout âge et il se réinvente. Et il est en phase avec lui-même. C'est clair que si t'es un ancien et tu veux jouer le jeune, bon, il y a un truc qui fonctionne pas. Mais de là à nous comparer aux sportifs, le sportif, avec tout le respect que j'ai pour les sportifs, ils ont une date de péremption. À un moment donné, tu peux plus parce que physiologiquement, c'est plus possible. Alors que rapper, j'ai envie de te dire, tu peux rapper jusqu'au jour où Jay-Z va venir à 80 ans, il va nous faire un album de ouf et on va plus. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que nous sommes des artistes. Nous ne sommes pas des businessmen. Nous ne sommes pas des sportifs, nous sommes des artistes. Et c'est important de marquer ça. Après, il y en a d'autres qui pensent différemment et je respecte tout à fait, il n'y a aucun problème. Mais ça, c'est de mon point de vue personnel.
C'est quand que tu animes une émission sur le rap? J'ai envie d'entendre ça. Hein.
Ben,
j'ai une épiphanie là.
Je t'ai mis tu m'as demandé aussi une chaîne YouTube ou un truc. Parce que là, je t'ai mis Joey et Jada. Je sais pas si
oui. Effectivement, c'est la chaîne YouTube de Fat Joe et de Jadakiss, ouais, effectivement, ouais. Que tu viens de citer, sur YouTube où ils font des interviews.
Ils font des interviews et tout. Mais en fait.
Donc tu consommes ça?
Ouais, de temps en temps, il m'arrive de. Bien sûr. J'aime bien le. Mais pourquoi je l'ai mis? C'était aussi pour parler de la continuité ou la reconversion des rappeurs. C'est-à-dire, les rappeurs, c'est des gens de mots. Et quand tu vois même Drix Chump, même quand tu vois, il y a plein,
Driver,
ou d'autres, parce que c'est des gens de mots, en fait. Et donc, les mots, tu peux les mettre en musique, tu peux les mettre en littérature, tu peux les mettre au cinéma, tu peux les mettre aujourd'hui, le podcast, ça veut vraiment dire quelque chose. Et quand tu les entends, eux, voilà, je trouve ça mortel. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour, avec Wallen, à un moment, on s'est dit, viens, on fait, parce qu'on discute beaucoup de culture et tout.
Ouais.
On pourrait peut-être y penser, mais on sait pas, on verra.
Un podcast. Ou une chaîne YouTube animée par Adam Malik et Wallen?
Ouais. C'est possible. Possiblement possible. En tout cas, on en parlait avec Wallen. Bon, peut-être qu'on on le fera jamais, ouais. Mais bon. Voilà.
C'est l'heure de la question qui tue. Abdelmalik, je suis désolé, on a très peu de temps. On a genre 40 secondes.
Ok.
Je vais te poser la même question que j'ai posée à Ino Casablanca la semaine dernière. Il déserte, tu prends un album.
Mais on pose pas de questions comme
si
ça.
Si on le fait. Ça veut pas dire le meilleur. C'est pas des. C'est. Là, tu t'as pas le temps. Tu dois en prendre un.
Allez, un album de Jacques Brel.
Ok, peu importe lequel.
Peu importe, mais souvent c'est des anthologies, donc oui, je prends l'anthologie.
Tu prends un best-of et là tu me... ok, d'accord, très bien, tu me mets une douille. Ouais. Mais c'est lui, c'est l'artiste qui te semble le plus important pour toi, en tout cas, dont tu as le plus besoin au quotidien.
En tant qu'homme de musique, homme de scène, puisque tu m'as parlé d'un album, pour moi c'est lui, il représente tout ce que j'aime, il est complet, voilà.
C'est drôle en plus parce que Ino Casablanca, que je venais de citer, cite Jacques Brel dans le morceau Dima Raef, donc le fait que tu le cites maintenant, voilà, la boucle
est bouclée.
Abdelmalik, merci beaucoup, vraiment, c'était un plaisir de t'avoir. On rappelle que ton film est disponible, là, l'album qui l'accompagne également, donc n'hésitez pas à aller regarder
le film. Furciné Libre et Furcier Héritage.
Exactement, allez regarder les films, écoutez l'album, et puis Abdelmalik, tu reviens peut-être pour ton émission ici.
Qui sait.
Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alexia Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Gaspard Guy Bourget et Sybille Clamence. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous serons à la même heure avec Kungs.